L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
Chez l'Étoile Dodge de Jonquière, en mai, viens te gâter. Tu choisis jusqu'à 20% de rabais sur les Ram Classic 2023. Nos Grand Cherokee PHEV ont 8 000 $ de rabais et nos Jeep Gladiator 2023 ont 10%. Wow! Ou tu prends 0% jusqu'à 72 mois. Aussi, nos moteurs diesel Cummins sont sans frais sur les Ram HD 2024. Et nos Fiat électriques arrivent bientôt. En mai, viens te gâter chez... Tout ça avec les changements d'huile gratuits pour 2 ans.
Le rendez-vous des amateurs de sport. Avec Michel Tifot et Dominique Bolduc. Bienvenue dans le vestiaire. Dans le vestiaire.
Bon lundi et bon début de semaine. Mesdames, messieurs, amis sportifs, amis Dominique, bonjour.
Bonjour, ami Michel.
On va commencer l'émission avec un décès, une mauvaise nouvelle. L'une des légendes de la radio s'est éteinte dans les dernières heures, René A. Tremblay, qui était dans le monde de la radio depuis plusieurs années. Dernièrement, il était au service des ventes du 98.3. Il a été directeur à CJOB, devenu Énergie. Il a travaillé à l'ouverture de CFIX. Quand CFIX? 96, quoi, le 96-9,
oui.
Qui est devenu Rock Détente.
Oui.
Il était là,
oui.
À l'ouverture de CFIX avec Roger Laurando et compagnie. Et moi, je l'ai connu, ça me rajeunit pas, là. Parce que c'était un chum à moi, le René A. Tremblay. On a tellement parlé de radio, on a eu des projets ensemble. Moi, je l'ai connu à CFGT Alma. Okay. CFGT 127, qui est maintenant Planète. Et je pense que je te l'ai déjà raconté. René A. Tremblay, qui est animateur de soir, lui, commençait sa carrière, ça a été le premier à me présenter en ondes pour un reportage. Je suivais l'équipe des Athlétiques d'Alma dans la Ligue de baseball senior,
oui,
provinciale. Puis l'équipe m'avait dit, après la partie, t'appelleras au poste de radio pour donner le résultat. Je vais m'en rappeler toute ma vie, j'avais 16 ans. Et j'appelle au poste de radio, puis c'est René A. qui répond. Il me connaît pas, je le connais pas. J'ai dit, bonjour, c'est Michel Tifot, j'appelle pour donner le résultat de baseball, de la joute des athlétiques. Il me dit, dans 30 secondes, t'es en onde. Je dis, non, je veux pas parler à la radio, j'aurais fait ça. Non, t'es capable, ta, puis...
Ouais, go.
Il me présente, Dominique, j'ai jamais... Heureusement, c'est ce qui m'a sauvé toute ma vie, c'était du sport.
Ouais.
Puis je me suis débrouillé. Les athlétiques, je me rappelle pas s'ils avaient gagné ou ont perdu. Les athlétiques, maintenant, ils ont perdu ce soir contre les Braves de Jonquière. Le sommaire du match, lanceur gagnant, le meilleur au bâton, ta. Fait que là, je finis, moi, le reportage. Hey, c'était bon, mon homme! Mais la prochaine game, même chose, tu me rappelles, tu passes en onde. Alors, René A. Tremblay a été le premier à me présenter à la radio. Puis de fil en aiguille, ben, je suis allé, j'avais même pas suivi mon cours, là, j'avais 16-17 ans. Là, je suis allé à Québec, j'ai suivi le même cours que toi, le CART, le Collège d'annonceurs radio-télévision. Puis par après, ben là, ben, ma carrière a commencé. Mais René A. Tremblay, on s'est croisés, on s'est suivis, on a travaillé ensemble, on a pris une bière ensemble, on a eu du plaisir ensemble. Puis tu sais, on dit souvent ça, quand les gens décèdent, c'est des bonnes personnes. René A. Tremblay, c'est un maudit bon gars. Je peux te le dire, là. J'ai tellement eu de plaisir avec ce gars-là. Puis Dominique, ça fait longtemps qu'on se connaît les deux, là. Mm-hmm. Puis au début, quand on s'est connus, on parlait de hockey parce qu'on jouait au hockey ensemble.
Ben oui.
Mais là, on s'assoit les deux, puis on le fait souvent. Et là, on est dans l'Alma il n'y a pas longtemps. Deux gars de radio ensemble, là, ça ne fait que parler de radio. Vous le dis, là?
Non, c'est vrai.
Je vais faire un voyage à Québec avec Ewick ou avec Pat Bouchard pendant 3 heures de temps, 2 heures et demie de temps, on va parler de radio. Deux gars de radio ensemble, ou un gars radio puis une fille de radio, ça parle de radio. On est maniaque, on est un peu... Et René A. Tremblay avait beaucoup d'amis dans le monde de la radio. Tu sais, quand ça fait plus de 50 ans que t'es dans ce milieu-là, ben, là, t'en as connu du monde.
Certain.
Alors, à tous ces gens-là, puis moi, c'est Pierre-Luc Desbiens qui me l'a appris vendredi soir au local des Chevaliers de Colomb à Jonquière, mm-hmm, lors du dévoilement du montant de 330 000 pour Jonquière.
Extraordinaire.
Pierre-Luc, il dit, Michel, j'ai pas une bonne nouvelle à t'apprendre. J'ai dit, ah ouais. Il dit, René A. Tremblay, il dit, il est sur les derniers 1000. Ça, c'était vendredi soir, puis mm-hmm, il est décédé en fin de semaine. Là. J'ai dit, ben voyons donc, j'étais pas au courant de ce qui s'était passé. Là, il est décédé dans les dernières heures. Alors, c'est un gars qui était très, très connu dans le domaine des médias. Un gars qui avait beaucoup d'expérience. Alors, à tous ses amis et à sa famille, mes plus sincères condoléances. Et tu te rappelles quand il y a eu le COVID?
Oui.
son frère André, que je connaissais bien, est décédé du COVID.
Absolument, absolument.
Il est décédé du COVID. Puis souvent, je l'ai rencontré. Ben René aimait ça prendre une bière, puis on a pris une bière ensemble.
Il est agent immobilier, André.
Il est agent immobilier, ouais. Alma. Et je me rappelle, quand est arrivé le COVID, il y a des gens. Tu sais que Marc-André Bédard,
Marc-André, du COVID. Oui, oh, il y en a eu.
Je connais 7-8 personnes qui sont décédées du COVID, carrément, là. Puis André, le frère à René, je l'avais. Puis j'avais rencontré René par après, j'avais offert mes condoléances. Son frère, qui était un maniaque de hockey, lui, ça a joué dans les ligues de garage. Un peu comme toi, puis moi, là. Okay. C'est un gars qui était. Puis il était agent immobilier Alma. Puis René, c'est deux gars qui étaient extrêmement connus. André, puis René A, qui est décédé dans les dernières heures. Maintenant, Messi est en ville en fin de semaine.
Il était là.
Il n'a pas scoré, pas de passe.
Non, pour la première fois de la saison.
Première fois de l'année. Le coach du CF de Montréal n'a pas aimé ça que les spectateurs chantent Messi, Messi. C'est le plus grand joueur au monde.
Oui.
Qu'est-ce que tu veux qu'on
fasse? C'est un événement. C'est sûr que tu veux encourager ton équipe. CF Montréal avait bien commencé la rencontre.
Ouais, mais 2-0, t'as rien.
Mais malheureusement, écoute, à Miami, c'est beau avoir Messi, mais il y a plus que ça. Ils ont une très bonne formation de soccer. Et ils l'ont montré avec une remontée, une victoire de 3-2.
Ouais. C'est comme les Panthers de la Floride. Moi, là, au début, je t'ai dit, j'aimerais ça que Boston gagne, mais je les aime bien, Boston. T'sais, ils ont du chien, ils sont vaillants, ils sont travaillants. Puis bon, j'ai toujours aimé cette équipe-là à cause de Bobby Orr. Parce que moi, mon joueur préféré, c'est Bobby Orr. Puis ils ont gagné la Coupe Stanley avec Bobby Orr, puis Johnny Busick, puis Phil Esposito, Jerry Cheevers et compagnie. J'ai toujours aimé Boston. Raymond Bourque par la suite, puis il y en a eu des bons joueurs du côté de Boston. Mais cette année, puis oui, Brad Marchand, je vois pas en plus hier, là. Mais honnêtement, là, j'ai regardé la game hier, là. Floride est bien trop fort. Hey, Floride, ils ont toute une équipe.
Ça joue tough.
Je te dirais que l'avantage de Boston, c'est Swoman, là, parce que Swoman, il est bon.
Puis une chance, ils ont tenu hier.
Ah, ils ont tenu. Ils ont tenu, ben, ça aurait... Quoique, quand il y a eu l'échappée, je ne me rappelle pas qui, puis il n'a pas scoré, là, à 3-0, c'est plus dur à remonter 3-0.
Ça aurait changé, oui.
Ça aurait changé.
Mais des fois, c'est un petit élément. Mais là, il commence à avoir de plus en plus de controverses sur la manière que la Floride fait pour gagner.
Ouais.
Bon, le but de Bennett, il y avait-tu hors-jeu, les coups. Tu sais, le coup à Marchand, là, dans le match numéro 3.
Ouais.
T'sais, la reprise était poussée loin. T'sais, Bennett, il sac une douette d'en face. Là, t'sais, il méritait peut-être une suspension ou une amende. On y va fort un peu, mais bon, c'est le hockey des séries.
C'est le hockey des séries.
Que le meilleur gagne.
Que le meilleur gagne. Ça joue cochon, ça joue dur. On prend tout pour gagner. Les gars veulent gagner, ça paraît.
Non, littéralement. Puis la Floride a tout ce qu'il faut pour gagner.
Ouais.
Littéralement.
Puis Bobrovsky, c'est pas Swayman, là, mais il est bon aussi.
Il fait le travail. Il fait le travail. Puis écoute, il y a tellement de bonnes équipes.
Là, j'ai hâte de voir. Moi, là, c'est. Je vais me tourner derrière les Rangers dans l'Est.
Ce soir, oui.
Oui. Normalement, ils devraient battre les Hurricanes. Ils ont une bonne équipe aussi, les Rangers. Ils ont une très bonne équipe. Dans l'Ouest, bien, à cause de Sam Girard, j'aime bien l'Avalanche du Colorado.
Ils vont devoir gagner ce soir contre les Stars. Les Stars ont une bonne équipe.
C'est comme les Oilers contre Vancouver. Le gardien de but,
c'est Love. Il fait la job.
On sait qu'il sort de nulle part, lui, là. Il y a
pas personne qui fait la job ou les Oilers en font pas assez?
Un peu des deux, mais il est bon aussi, c'est là, avec 42
ans. Il était très bon hier. Mais ce que j'ai remarqué hier...
Puis Skinner, il fait pas le job.
Ben, c'est ça. Puis en plus, y a-t-il un esprit d'équipe chez les Oilers? À un moment donné, là, Connor McDavid s'est fait brasser par deux gars. Personne qui est venu le défendre. Personne! Pas à Pittsburgh, ça arrivera avec Crosby, là.
Non.
C'est parce que c'est le meilleur joueur au monde, là.
Ouais, protège-le.
Protégez-le.
Ouais.
Protégez-le. Tu sais, imagine-toi, là, les Canucks blessent McDavid, puis les Oilers sont pas capables de continuer plus loin à cause qu'il était blessé. Tu fais, OK, t'as peu, là. Parce qu'il faut que tu protèges les bons joueurs aussi. Tu sais, Boston ont perdu Marchand, ça fait mal, c'est sûr et certain.
Puis ils s'en remettront pas, là.
Ah, je pense pas.
Ils s'en remettront pas.
Surtout dans Floride, en plus, ça va être.
Je pense que le prochain match a été mis à aise, ça s'arrête là.
Mais c'est des séries qui sont intenses. Énormément.
Comme ça a toujours été, Dominique.
Comme
les
ça
séries,
a toujours été.
C'est intense, puis c'est le fun.
Le jeu monte d'un cran. Ça fait du beau hockey. Il y en a qui disent que c'est un peu trop violent, mais regarde, c'est pas de la ringuette non plus, là. C'est du hockey. Tu as le droit d'y aller de mise en échec. Ils vont de mise en échec. Par contre, il faut pas que ça aille trop loin. Puis hier, quelques gestes des Panthers sont peut-être allés un peu trop loin. Mais bon, regarde, c'est aux arbitres de faire la job. Puis hier, je pense que messieurs l'écuyer, enfin, c'était deux Québécois. Jim Montgomery, de toute façon, il l'a dit. Il les a envoyés manger de la M. Puis en français, en plus, c'est pas gêné.
Ouais.
tu sais, à un moment donné, là, il faut que tout le monde fasse sa job comme du monde.
Championnat du monde de hockey sur glace. Aujourd'hui, la Slovaquie jouait contre les États-Unis. Il y avait deux joueurs du Canadien qui étaient sur la glace. Slavkovski pour la Slovaquie et Caulfield pour les États-Unis. C'est Slavkovski qui a eu le meilleur. 5-4
oui.
pour la Slovaquie.
Sans avoir eu de points, toutefois. Ouais. Slavkovski a été blanchi de la feuille de pointage, mais la Slovaquie l'a emporté 5-4 en prolongation sur un but de Milos Kilemen, son deuxième. Simon Nemec a obtenu une passe qui est lui qui est sorti tout de suite après Slavkovski au repêchage. Il appartient aux Devils New Jersey. La Slovaquie menait 4-1 après deux périodes de jeu. La formation américaine qui a marqué trois fois en troisième. Pour ce qui est de, en fait, du joueur en fait, Cole Caulfield, n'a pas marqué, n'a pas réussi de point, donc a été blanchi de la feuille de pointage.
Maintenant, du côté du Canada, deux victoires. On surveille bien sûr Connor Bedard.
Il va
bien. Deux buts à première game, deux buts à deuxième partie.
Puis ça devrait être une autre victoire demain. Là. Écoute, quand je regarde, écoute, les affrontements demain, là, plate. Là. Lettonie-Kazakhstan, Norvège-Danemark, France-Pologne.
Ah, tu prends pas congé demain pour écouter ça?
Autriche-Canada. Tu es malade, toi. Autriche-Canada. Hey, sérieusement, là, c'est pas les grands pays, là, on s'entend. Non. Mais bon, ils veulent participer. Ils ont réussi à se tailler un poste dans ce championnat-là. Alors, on les verra. Mais évidemment, on va surveiller le Canada contre l'Autriche à 14h20 demain.
Hey, c'est vu dans 110 pays, championnat du monde.
Oui.
Sur
ben oui.
C'est très écouté. Tennis à Rome, Caroline Devine, Félix l'échappé.
Mais oui, après.
Il gagne la première manche 7-6, puis il échappe les deux autres 6-4. Puis, tu sais, je te l'avais dit ce matin, le match en cours, quand on s'est discuté dans l'émission du matin, puis demi-heure, je t'ai dit, demi-heure, il est 8-9e au monde. Il a gagné 6-4 après.
C'est un des très bons, et est-ce que peut-être Ogier Aliassim a un peu de fatigue, parce que quand même, les dernières semaines, ouais, il a joué longtemps et tout. Alors, lui qui avait atteint là, la finale du côté de Madrid.
J'ai le goût de dire pour Félix Ogier, chapeau, Valoff. Pour Félix Auger-Aliassime.
Mais puis, ça va se poursuivre. Il se prépare pour, évidemment... Tu sais, c'est un gros été pour les joueurs de tennis.
Hey, j'aurais peut-être une
suggestion. T'as Roland-Garros, t'as Wimbledon, puis t'as les Jeux olympiques.
Oui, les Jeux olympiques.
Et les Jeux olympiques se font à Paris, c'est donc dire, sur terre battue.
Exact.
Ça va être bon, ça.
J'aurais peut-être du renfort pour les Blue Jays de Toronto.
Ah oui?
Si je te disais que le gars, il a frappé pour 406.
Ah ben, c'est intéressant, ça.
Deux fois la triple couronne. Tu le prends-tu, Ted Williams, avec les Blue Jays de Toronto? Il fera un job?
Ben, je pense que oui.
Je regardais les statistiques de Ted Williams, Dominique. Champion des frappeurs en 1941. 406 de moyenne. Ça veut dire 4 Simon Bâton, là. C'est presque une fois sur deux qu'il a mal lieu sûr. 406 de moyenne. Ça veut dire qu'il peut pas avoir de séquence de 0 en 12 puis 0 en 13. Impossible. Il frapperait pas pour 406. C'est toujours un coup sûr en 3 puis un coup sûr en 2. Puis deux coups sûrs en trois, puis s'il est blanchi une game, après ça, c'est 4 en 4. Hey, 406, conserver une moyenne de main pour
faire
des coups sûrs.
Ouais.
Et deux fois, la triple couronne, mesdames, messieurs, là, c'est le meilleur frappeur en moyenne, le plus de circuits et le plus de points produits. Ted Williams, là, il était bon, mais pas à peu près. Il joue avec les Red Sox, hein? Avec les Red Sox de Boston.
Ouais.
Si ma mémoire est bonne. Maintenant, junior, majeur, ça joue à soir, mais là, Bécamo, il s'envoie de Drummondville à 0-2.
Ça, c'est la surprise. Oh. On va se le dire, c'est la surprise.
Ouais.
Personne ne s'attendait à voir le Drakkar tirer de l'arrière 0-2. En plus, sans avoir marqué un seul but, non, c'est 0, là, 0-6 dans les buts. Et Volchard de Drummondville, écoute, il n'y a pas de place dans la zone. Il n'y a pas de place. Mercer fait
il
les arrêts.
Le jeu.
Défensivement, ils sont gros. Le Drakkar devra rebondir et trouver une façon...
Mais comment?
Je sais pas.
Si, puis en plus, Drummondville, la foule va-tu être déchaînée, là, ce soir?
Hey, ça va être extraordinaire.
Oh, puis... que ce sera pas facile pour le Drakkar.
Puis...
Oh.
Puis je regarde les joueurs, là, du côté du Drakkar. Écoute, les Gill, les Poirier et tout,
oui.
On les voit pas.
Non?
Ils n'ont pas d'espace. Les deux frères Boilard, ça fournit pas. Ils se font menotter par... Les Volchers de Drummondville, qui littéralement est la meilleure équipe sur la glace, on le voit. Ethan Gauthier, déjà 21 points. Alexis Gendron a 11 buts. Mercer, extraordinaire, il a déjà 14 victoires. Ça va être très difficile pour le Drakkar de remonter. Mais ils ont le talent pour. Ils ont le talent, mais ils devront le mettre et le démontrer parce qu'en ce moment, il y a des joueurs qu'on a vus en saison qu'on ne voit pas en série.
On revient au soccer. Le 92.5 ne vous garantit pas Lionel Messi, mais on vous garantit qu'on va envoyer deux personnes sur le bras voir un match du CF de Montréal contre Toronto FC au mois de juillet. Le 92.5 fournit l'essence. On va payer l'hôtel et on vous offre deux billets au Stade Saputo plus deux chandails du CF.
En collaboration avec EspaceSoccer.com qui vous amène de ce côté-là. Vous vous rendez au CKAJ.org pour section concours pour être finaliste, aller remplir vos coordonnées. Et le mot de passe pour aujourd'hui, lundi 13 mai, pénalité.
Pénalité.
Il y en a des pénalités. Ouais. Alors, allez remplir ce mot de passe-là. Et on prend un finaliste par téléphone. Tiens, maintenant, c'est le temps de nous appeler 88-82-82-50.
Pénalité au soccer, ça se transforme
penalty.
En carton rouge ou en carton
jaune.
Oui,
ça va, en carton jaune, carton rouge, effectivement.
Carton rouge, c'est plus tanné un peu, là.
Ouais, c'est fini.
Ouais, carton rouge, terminé. Carton jaune. Ah, c'est les
règlements. Encore une chance.
Alors, on prend un appel.
Oui.
Dans un instant, on va jaser de baseball. Ben, la saison des voyageurs commence très, très, très bientôt. À la fin du mois, on va jouer au stade Richard Desmal. Je le répète, au stade Richard Desmal.
Oui, et ça pour toute la saison.
Et Kenogami, ce sera pour l'an prochain, parce que l'année prochaine, on va jouer probablement dans deux stades. Celui de Kenogami qui a été rénové et celui du stade Richard Desmal qui sera rénové à la fin de la saison.
Arrêt de jeu. Retour en vestiaire dans quelques minutes. Amateurs de soccer, vous aimeriez ça assister à un match du CF de Montréal au stade Saputo? C'est possible! EspaceSoccer.com, en collaboration avec le 92.5, ma radio d'ici, vous offre la chance de gagner deux billets pour le match du samedi 20 juillet contre Toronto FC, alors que deux billets vous seront offerts, chambre d'hôtel, l'essence et deux chandails du CF de Montréal. Voici comment faire pour participer.
Écoutez Dans le vestiaire à tous les jours entre 15h30 et 16h30 pour prendre en note le mot de passe et rendez-vous au ckaj.org section concours pour être finaliste. De plus, durant l'émission, nous prendrons un finaliste par téléphone au 412-92-50. Et si vous avez votre carte de membre CKAJ, vous doublez vos chances de gagner.
Tirage dans le vestiaire le 25 juin. Participez en grand nombre et bonne chance.
Allô, mon ami Jimmy, es-tu toujours aussi énergique?
André, chez Hyundai du Saguenay, c'est la fête en ce moment. Je sais pas si je me sens énergique, mais peut-être plutôt électrique.
Électrique? Comment ça?
Hyundai vient de nous annoncer qu'il nous faisait parvenir plus de 50 voitures électriques immédiatement. Et ça, non vendues et subventionnées.
Ouais, Kona électrique, Ioniq 5, Ioniq 6, entièrement électrique. Enfin l'occasion de rouler électrique.
Oubliez les délais maintenant et profitez des subventions pour 2024.
Et adhérer à l'électricité.
Et rouler électrique chez Hyundai du Saguenay, boulevard René-Lévesque, Jonquière.
Réveillez-vous. Ne manquez pas tous les jours de semaine l'émission du matin la plus près de vous. Réveillez-vous avec Dominique Bolduc, Pat Bouchard et Éric Lavoie. Entrevues, chroniques, histoires, politiques, tout ce qui touche le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Pièce d'auto Sainte-Geneviève est fière de vous présenter l'émission Réveillez-vous. Pièce d'auto Sainte-Geneviève, une identité régionale depuis 28 ans. 4 points de vente au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un site 100% transactionnel.
Réveillez-vous dès 6h tous les matins de semaine au 92.5, ma radio d'ici.
Bienvenue, mini supermarché spécial restauration. Pizza 10 pouces, pépé fromage ou garni à seulement 11,99 $. Oui, j'ai bien dit la pizza 10 pouces à 11,99 $. Ou encore plus, deux pizzas pour 19,99 $. Bienvenue, mini supermarché restauration rue Bégin et boulevard Saguenay.
Baseball.
Bonne chance à Mme Parisette Hudon, qui est notre finaliste d'aujourd'hui pour le voyage de soccer le 20 juillet prochain, tirage le 25 juin. Il y aura un autre mot de passe. En fait, il y aura une autre finaliste par téléphone demain, mais vous pouvez vous rendre sur Internet toujours, ckaj.org, section concours, avec le mot de passe. Pénalité!
Alors, les femmes ont le droit de gagner.
Bien certain.
Et les femmes ont le droit de nous écouter. Il y en a beaucoup qui nous écoutent. Alors, salutations aux dames et demoiselles qui écoutent dans le vestiaire. Et il y en a des dames et demoiselles, j'en vois beaucoup des... Puis tu sais, t'es là presque à toutes les joutes des voyageurs. Il y a beaucoup de femmes qui aiment le baseball. Jérémy Chalifour, bonjour!
Salut, messieurs, ça va bien?
Ça va bien. C'est vrai que le baseball, c'est pas juste les gars. Il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent au baseball et qui connaissent.
Et les mamans sont bien fières de leurs petits gars aussi.
Oui, il y a ça aussi.
En effet, on croise tout le monde au baseball. Des hommes, des femmes, puis c'est ça qui est agréable aussi.
Bon, là, les voyageurs n'ont pas joué en fin de semaine. Pas de match pré-saison. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Vous avez sûrement frappé des balles puis lancé, là.
Ouais, en fait, on a fait monter tous les joueurs en fin de semaine au Saguenay. Donc, vendredi soir, on a eu une grosse pratique d'équipe. Nos lanceurs ont pu lancer devant nos frappeurs. Fait que ça a permis d'avoir des bonnes répétitions, un petit peu comme simuler un match. Après ça, samedi, on a participé à la convention de baseball Saguenay. Puis on a donné un petit coup de main à baseball Saguenay. Nos joueurs ont participé, nos entraîneurs aussi, donné des conférences, ainsi de suite. On a un souper d'équipe par la suite le soir et dimanche, on a fait une grosse pratique de 4h, 4h30 à peu près pour préparer les petits détails pour être fin prêt pour samedi soir à Charlebourg.
Et suite à ce week-end d'entraînement, Jérémy, qu'est-ce que tu aimes de ton équipe?
La chose principale pour moi qui est importante et que j'aime en ce moment, c'est l'engagement des joueurs. Les joueurs, il y en a beaucoup qui font de la route, qui se présentent, qui sont prêts à passer à la fin de semaine, qui aiment le baseball, mais les joueurs... sont à l'écoute, sont réceptifs, puis ont hâte de commencer, mais sont vraiment dédiés. Fait que c'est le point clé que j'aime des joueurs, puis je leur dis souvent que si on travaille, les bonnes choses vont arriver par la suite.
Est-ce que tu as certaines craintes? Le début de la saison, ça en vient. Est-ce que tu penses que tu vas avoir assez de bras pour commencer l'année? Vas-tu être capable de répondre en attaque, défensivement parlant? Parce que le baseball junior, la défensive, c'est tellement important. Est-ce que tu as certaines craintes avant que l'année commence?
Non, aucune crainte. J'ai confiance en notre groupe. Il y a des joueurs de collège aussi qui vont se rajouter déjà samedi à l'alignement. Mais ce que je vois en ce moment, on est efficace dans les trois styles de jeu, que ce soit au bâton, en défensive et comme lanceur aussi. Fait que on va essayer des choses en début d'année, mais non, j'ai pas de crainte. Je suis juste hier en ordre qu'on que ça commence. Puis dans le fond, je suis sûr qu'on va être capable de faire le travail dès le début de l'année.
Si les voyageurs jouent ce soir, est-ce que ton alignement est prêt? Est-ce qu'il y a encore certaines positions là, que tu ne sais pas si ça va être tel ou tel joueur qui va officier à cette position-là?
Écoute, avec j'ai su aujourd'hui qu'il va y avoir deux joueurs des collèges américains qui vont participer au match de samedi. Fait que ça va être à voir quelle position qu'on va privilégier pour eux. Je dirais qu'en ce moment, là, les neuf qui vont toucher au terrain, on est pas mal convaincus pour le premier match. C'est de voir ça va être quoi l'alignement au bâton et qu'est-ce qu'on y va en défensive pour essayer de solidifier le tout. Puis on se laisse la semaine avec mes entraîneurs pour jaser, pour se faire différents plans. Puis on va arriver samedi soir avec le meilleur plan possible. Puis vendredi, on a une dernière pratique au Saguenay. On fait monter les joueurs au complet, toute l'équipe, vendredi soir. Fait qu'on va avoir une autre bonne pratique. Puis samedi, on va prendre l'autobus pour direction Québec.
Vous jouez une ou deux parties en fin de semaine?
Une, samedi soir à Charlebourg. Et on rejoue contre eux après mercredi soir à Charlebourg.
OK, deux fois là, dans les quatre prochains jours. Après ça, vous vous emmenez ici au Saguenay pour l'ouverture au stade Richard-Desmolle?
On va avoir un autre quatre matchs sur la route. On va partir la fin de semaine d'après. On va aller à Gatineau le vendredi et le samedi pour finir avec Saint-Eustache le dimanche. Et par la suite, on va revenir le 30 à la maison. Donc, nos six premiers matchs sont sur la route.
Est-ce que tu t'es donné un objectif pour la première année comme entraîneur des voyageurs de Jonquière, Jérémy?
On n'a pas de chiffres côté victoire, défaite pour la fin. Nous, le but, c'est vraiment de progresser toute l'année. Fait que, tu sais, on va essayer des choses, puis on en parle aux joueurs aussi, c'est de segmenter un petit peu la saison, puis qu'en deuxième moitié de saison, on soit vraiment solide. Tant que les séries vont arriver, qu'on soit capable de surprendre un petit peu tout le monde. Mais côté victoire-défaite, c'est dur à dire, mais je suis pas inquiète qu'au premier match de saison, on va déjà être prêt, mais plus ça va avancer, meilleur on va devenir en tant qu'équipe.
Jérémy, bonne chance, puis on se reparle bientôt.
Merci beaucoup.
Alors, ça commence ce week-end pour les voyageurs, mais là, c'est plusieurs parties sur la route, deux week-ends sur la route.
Oui, effectivement.
On s'en vient ici au Stade Richard-Desmolle.
Match d'ouverture le jeudi 30 mai.
On va continuer dans le baseball. Les Jays ont perdu hier contre Minnesota. C'était Alex Manoa au Monticule. Mais tabarnouche, il a pas mal lancé, mais les Blue Jays ont perdu quand même.
Mais ils n'ont pas fait de points. Ils l'ont pas appuyé à l'attaque.
Parce que six manches de travail, il était bon.
Écoute,
Alex,
il a bien fait les six premières manches. Il n'a absolument rien donné. Malheureusement, le reste de l'attaque n'a pas fourni. Mais en fait, n'a absolument rien fourni. Et septième manche, peut-être la manche de trop. Là, il a commencé à donner des points. Et ce fut le début de la fin, malheureusement, pour les Jays qui ont subi une deuxième défaite dans cette série de trois contre les Twins du Minnesota.
Dans le temps, Dominique, quand je commençais à faire de la radio, on surveillait un Québécois. Il n'avait pas 10, il n'avait pas 12, il n'avait pas 3, il n'avait pas 4, il n'avait un. Claude Raymond.
Mm-hmm.
Il était à Atlanta.
Oui.
Après ça, il a passé à Houston, puis il a fini...
Avec les Expos.
Avec les Expos. Là, en 2024, on en a 3. Puis les gars sont bons, là. Édouard Julien, hier, il y a 2 coups sûrs avec les Twins du Minnesota. À Oakland,
Abraham Toro connaît tout un mois de mai.
19 à 49. Il frappe pour 400, pas loin de 400.
Puis, ouais, puis au cumulatif, il frappe pour 299 actuellement. 4 circuits, 17 points produits, 41 coups sûrs depuis le début de la saison.
Question, Dominique.
Hein?
Y en a-tu des frappeurs des Blue Jays qui frappent pour 299? Des réguliers, là? N'a pas.
Des réguliers, non, je pense qu'il n'a pas.
Il n'y a aucun régulier. Ça veut dire que Abraham
Turner a baissé, là.
Ah, Turner est en bas de 300, là.
Ça veut dire 250.
Il a baissé solide, là.
C'est le meilleur frappeur. Ben, il y a Danny Johnson, mais il joue comme remplaçant.
Ouais, remplaçant.
Mais le meilleur en ce moment, c'est...
Il est à 300, Johnson?
315.
Ah, c'est le seul.
Puis sinon, c'est Schneider à 278.
Hey! C'est pour ça qu'il ne gagne pas. T'as raison, Dando, il n'a pas de 5 à 1. Il frappe pas.
Ben, écoute, t'as une moyenne cumulative au bâton de 231.
Impossible. Tu peux pas gagner.
T'es 11e sur 15 dans la Ligue américaine.
C'est-à-dire qu'Abraham Toro et Édouard Julien, là, à Toronto, il sera des meilleurs. Puis il y en a un autre qui a joué hier avec Miami. C'est Otto Lopez. Ils n'ont pas les noms québécois, là. Mais Otto Lopez, qui est né à Montréal, il a un coup sûr, un point compté.
Eh oui,
il y en a d'autres dans le baseball. Tu sais, Jérémy Pillon, il a commencé à jouer là, dans les recrues des Rays.
Pillon, oui, tout
Pillon,
à fait.
Il a bien lancé la semaine passée.
Tu sais, Lopez, c'est plate. Il appartenait à Toronto. Ils l'ont laissé partir pour faire la place à un vétéran.
Ouais.
Et ben là, il va bien. Il a joué 16 matchs avec les Marlins. Une moyenne au bâton de 321.
Dominique.
T'sais, pas dur.
J'ai oublié un autre Québécois.
Qui?
Guerrero. Il
est Québécois.
L'a oublié, il est né à Montréal.
Il est Québécois.
Guerrero, il est né à Pardon, il est né à Montréal. Je l'avais oublié, Guerrero.
Ah oui.
Bon, ce soir, on a un programme sportif assez... deux parties dans la Ligue nationale. Hurricane contre Rangers. Les Rangers, ils font un job. D'abord, ils ont un bon gardien de but. Ils ont de l'attaque. Ils ont des... Puis Lafrenière, là, tu sais, ça a commencé tranquillement.
Il va bien,
Lafrenière.
Bien, on lui fait confiance. Ce qu'on voyait, c'est que, bon, Gérard Galland ne le faisait pas jouer... Tu sais que tu le fais jouer avec des bons joueurs, tu le fais jouer avec Panarin, c'est sûr qu'il va bien performer, mais tu sais, il y a un talent, J'avais mis en doute un peu son développement, mais quand tu le joues dans tu le fais jouer dans le bon siège, il est capable de démontrer qu'il peut tenir l'attaque, qu'il peut contrôler son jeu, puis ça va bien de son côté. Ça va être dur pour les Hurricanes de gagner ce soir, mais ils se battent bien, les Hurricanes. Même s'ils perdent, ça se finit toujours par un but. Ça va en prolongation. D'ailleurs, le dernier match, ils ont gagné ils ont gagné à la toute fin. Mais ça ne sera pas facile pour les Hurricanes. En plus, on retourne au Madison Square Garden ce soir. Les Rangers ont une bonne chance d'aller en finale de conférence.
Puis Colorado, il faut qu'ils gagnent ce soir. Ils sont chez eux.
Tu dois absolument gagner.
S'ils échappent ça, ils retournent là-bas à Dallas.
Même scénario que les Hurricanes. Là, donc, ça doit absolument de l'emporter ce soir. Sinon, bien, ils vont faire face à l'élimination. Les Stars, la différence qu'avec l'Avalanche, c'est que les Stars ont un meilleur gardien.
Ouais. Et l'autre équipe qui doit gagner ce soir, c'est le Drakkar, parce qu'à 0-3, oubliez ça. Ça, c'est pas arrivé souvent dans le junior qu'une équipe en gagne 1, 2, 3 et 4.
Non.
C'est pas arrivé souvent. Parce que là, ils perdent 2-0, mais ils s'en vont à Drummond. Puis Drummond, j'ai écouté les parties, là, Drummond domine. Là.
Ah, littéralement.
C'est comme Floride avec Boston. Les gens aiment beaucoup Boston. Floride sont pas mal meilleurs que Boston. Hier, il y a 42 lancés contre 18. Touche pas, ils n'ont pas de choix rondelle hier à Boston, ou à peu près pas. Là. Ça paraît que Marchand n'était pas là. Oui, ils ont pris les devants 2-0. Il n'a pas été fort, Bobrovsky, au début, là.
Non.
Il n'a pas été fort. Puis si Swayman n'est pas là, ça aurait fini, en tout cas. Mais les Panthers sont beaucoup plus forts. C'est la même chose dans le junior. On ne s'attendait pas à ça, là. Mais ce qu'on a vu, les deux premières parties, Drummondville, Bécomo, les Voltigeurs sont dominants. Puis, ils n'ont pas donné de but en deux rencontres. Puis ce soir, c'est à Drummond. Alors, ce ne sera pas facile. Mais si le Drakkar se fait battre ce soir, 4 victoires en ligne, pas certain. Puis demain, Canada contre l'Autriche. Là, on est en préliminaire.
Ça devrait être une formalité pour le Canada.
Oui. Puis basket, on est dans le basket. C'est serré, basket. 2 séries à 2-2.
Oui, absolument. Ça a bien rebondi parce que Insil, ben là, ça a rebondi. Là, ce soir, ben là, c'est deux matchs qui sont à 2-1. quatrième match de la série entre les Celtics et les Cavaliers. Les Celtics mènent 2-1. Et il y a également Dallas qui mène 2-1 contre Oklahoma City.
Ah, les Celtics vont peut-être faire oublier les Bruins. Puis les Red Sox, parce que les Red Sox sont pas partis pour une grosse année non plus.
Ben, ça va mieux que les...
Que les Blue Jays. Ouais, mais Blue Jays. C'est facile d'aller mieux que les Blue Jays. Ben.
Et ils sont à 5 matchs et demi de Baltimore. Baltimore vont bien encore. Ils sont surprenants. Ouais. Là, c'est Tampa Bay qui me déçoit cette année. Mais bon.
Ben, c'est le baseball. C'est les Dodgers, mais une équipe pactée. Même si ils ont perdu 4-0. Yeah, yeah.
L'année passée, c'est vraiment la section ouest de l'américaine qui était la plus forte. Ouais. En ce moment, c'est la centrale.
La centrale. Hein.
Cleveland, 25-16. Minnesota, 24-16. Kansas City, 25-17. Puis même Détroit sont 20-20. À part là, les White Sox en bas. Là,
Toronto, ils ont combien de parties en bas? 3-4 parties en bas?
Ils sont 18-22.
4 parties en bas de 500.
Puis les White Sox, si ce n'était pas des 4 matchs remportés en fin de semaine, ils seraient encore plus bas que ça.
Et puis là, ce qu'on a Baltimore,
pas facile.
Pas facile.
Pas facile.
Une pause dans un instant. On a un autre ancien joueur des Saguenay-Chicoutimi, Yves Bolduc, va nous le présenter après les pauses que voici.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
Chez l'Étoile Dodge de Jonquière, en mai, viens te gâter. Tu choisis jusqu'à 20% de rabais sur les Ram Classic 2023. Nos Grand Cherokee PHEV ont 8 000 $ de rabais et nos Jeep Gladiator 2023 ont 10%. Wow! Ou tu prends 0% jusqu'à 72 mois. Aussi, nos moteurs diesel Cummins sont sans frais sur les Ram HD 2024. Et nos Fiat électriques arrivent bientôt. En mai, viens te gâter chez... Tout ça avec les changements d'huile gratuits pour 2 ans.
Avis à tous les auditeurs du 92.5. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, CKJ subira une interruption de ses ondes le mardi 21 mai entre 9h et 19h, le mercredi 22 mai et le jeudi 23 mai entre 9h et 14h, de retour juste à temps pour l'émission Dans son comme dans le temps. Donc, je répète, votre 92.5 ne pourra diffuser sa programmation régulière les 21, 22 et 23 mai prochains pour des raisons vraiment indépendantes de sa volonté. Cependant, vous pourrez continuer de nous écouter sur Internet et en direct sur ckaj.org. Notre équipe est désolée de ce contretemps et nous sommes déjà impatients de revenir en ondes et de vous retrouver tous.
Saviez-vous que la majorité des incendies mortels surviennent dans les résidences? Dans la plupart des cas, les pompiers ont constaté qu'il n'y avait pas d'avertisseur de fumée ou encore que celui-ci n'a pas fonctionné, souvent en raison d'une pile absente ou épuisée. Rappelez-vous qu'un avertisseur de fumée et une pile en bon état, c'est comme avoir chez soi un pompier qui surveille 24 heures sur 24. Aujourd'hui, pensez à changer la pile de votre avertisseur de fumée. Une invitation de votre service municipal de sécurité incendie et de votre station de radio locale.
Ne manquez pas du lundi au vendredi 7h20 dans l'émission Réveillez-vous, les sports avec Michel Tifot. Une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean, maintenant agrandi et rénové. L'Étoile Dodge, 3311 Boulevard du Royaume Jonquière, fier de présenter les sports avec Michel Tifot dans l'émission Réveillez-vous vers 7h20 du lundi au vendredi.
Ah, il est fidèle au rendez-vous, notre ami Yves Bolduc, pour la chronique des anciens joueurs des Saguenay-Chicoutimi. Yves Bolduc, bonjour.
Salut les gars.
Quel est notre invité ce lundi?
Aujourd'hui, bien, on reçoit un allié droit qui a porté les couleurs des Saguenayens au début des années 90. Choix de 5e ronde, le 52e au total de la séance de sélection de 1990. Il a connu une excellente saison chez les Midget 3A avec les Gouverneurs de Sainte-Foy. Il avait marqué 35 buts et 38 passes pour 73 points en 42 matchs. Et les Saguenay l'avaient repêché par la suite. Il a disputé 2 saisons en 90-91, 46 parties avec 9 points. Et en 91-92, 60 parties pour 42 points. Et sa carrière de hockey s'est terminée par la suite. Il y aura certainement l'occasion de nous expliquer le tout par la suite. Il n'y a pas eu de poursuite au niveau de sa carrière de joueur de hockey. Donc, on le rejoint immédiatement. Carl Wiseman est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Carl.
Bonjour. Carl, ça va bien?
Ça va très bien. Ça a commencé comment, ta carrière comme joueur de hockey dans ton coin de pays?
Ben, comme joueur de hockey, je dirais que tout d'abord,
J'ai appris à marcher à l'âge d'un an, mais j'ai appris aussi à patiner à l'âge de 2 ans et demi. Donc, mes premiers patins, je les ai eus quand même assez tôt. Là, on faisait une petite patinoire dans la cour chez mes parents. Puis, je veillais quand même assez tard. Ça me fait rire parce que j'ai 3 enfants aujourd'hui. Puis, à l'époque, quand on voulait punir un enfant, on lui disait qu'il ne pouvait pas aller jouer dehors. Aujourd'hui, c'est le contraire. Si tu veux le punir, tu lui dis « va jouer dehors » puis laisse tes jeux vidéo de côté. Mais c'est ça. Je pense que ça a commencé comme ça. Mon père était entraîneur dans le hockey mineur, puis j'ai toujours joué contre des joueurs un petit peu plus vieux que moi, puis ça m'a aidé là, à me rendre quand même à un niveau assez élevé.
Mais Carl, entre nous autres, là, si tu as commencé à patiner à 2 ans, tu t'en rappelles pas? Là.
Non, pas du tout, à part pour les photos que j'ai vues. Ouais.
Parce que si je te disais à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, est-ce que tu patinais du reculon? Tu t'en rappelles pas. Moi, je commence à me rappeler des affaires à 5-6 ans, là. Mais à 2, 3, 4 ans, tu dois pas te rappeler si tu patinais du reculon.
C'est encore drôle parce que sans que ça soit relié au hockey, je me rappelle d'avoir écouté les Olympiques de Montréal de 76, même si j'avais 3 ans. Fait que c'est très vague, là, mais je me rappelle de l'avoir écouté à la télévision.
OK. Ça veut dire que quand tu as commencé, ton papa t'embarquait sur la glace, il devait pas en avoir 5-6 des joueurs de 2-3 ans sur la glace. Moi, j'ai pas entendu ça souvent. Ils jouent au hockey à 2-3 ans. Là. J'ai pas entendu ça souvent.
À cet âge-là, c'était pas vraiment du hockey.
Mais quand même, t'es sur la glace pareil, là.
Ouais. Le père avait hâte de voir, je pense, son fils sur une patinoire. Puis je me rappelle d'avoir joué pour la première fois dans une équipe. Je pense j'avais 4 ans, mais là, je jouais contre des 7 ans. J'avais marqué un but dans la saison. Ouais. Ça ressemble quasiment à mon année recrue avec les Saguenay.
Mais là, on est quatre à se parler, m'a posé la question, mais je vais répondre d'abord. Moi, la première fois que je me rappelle que j'ai une photo de moi en patin, j'ai 5 ans. 4 ans et demi, 5 ans. Toi, Dominique?
Ouais, 6 ans à peu près.
5-6 ans,
ouais.
Yves?
Oh, 5-6 ans aussi,
bon,
oui.
Ça, tu nous bats, Carl, à 2 ans, 2 ans et demi.
Ouais.
Ça veut dire que c'est le premier joueur d'hockey qui a une suce. À 2 ans, il y en a encore qui ont des suces dans la bouche. Elle t'a vraiment commencé de bonne heure, Carl, à jouer au hockey, là. À patiner, en tout cas.
Non, absolument, ça c'est clair.
Mais l'influence du père a toujours une importance. Si le père l'a incité à aller sur la glace parce qu'il était entraîneur, c'est toujours un bon exemple. Et le père est souvent celui qui débute les carrières de ces jeunes joueurs. Carl, tu fais partie du groupe des anciens avec qui on s'entretient depuis janvier 2022. Parle-nous d'une personne qui a exercé une grande influence dans ta carrière de hockey, entre autres lors de tes 2 saisons juniors.
Ça, je dirais, j'ai beaucoup de difficultés à répondre à cette question-là parce que pour moi, mon expérience à Chicoutimi, il y avait 2 volets. Il y avait le volet sur la glace, puis il y avait le volet hors glace. Pour moi, était aussi important, sinon plus, parce que l'école, pour moi, a toujours été au cœur de mon plan de carrière. Fait que là, si on regarde juste le plan de carrière au niveau hockey, c'est sûr que moi, c'était d'avoir des gens autour de moi qui continuaient à me garder réaliste face à mes possibilités d'aller plus loin. Je dirais, j'ai toujours dit que si j'avais 10 vies à vivre, je n'aurais gaspillé une pour le hockey, j'aurais mis toutes mes œufs dans le même panier. J'aurais laissé l'école, comme certains de mes anciens collègues ont fait à l'époque. Et puis, peut-être que j'aurais tout misé là-dessus, mais je savais que je pouvais m'en sortir aussi du côté académique. Du côté hockey, j'étais assez réaliste pour savoir que je serais pas le prochain Wayne Gretzky ou Mario Lemieux. Mais je pense que c'est peut-être le côté des joueurs plus âgés, là, les 19-20 ans qui avaient eu des expériences dans des camps d'entraînement de la Ligue nationale ou qui nous ramenaient un peu le côté professionnaliste qui était allé chercher dans ces camps-là. C'est quelque chose qui est important même dans la vie, pas juste au hockey, d'être extrêmement professionnel, puis à son affaire, puis de travailler fort. Donc, pour moi, c'est comme ça que je le vois, parce que du côté hockey, je ne vous cacherai pas que j'aurais aimé que la carrière soit un petit peu plus mémorable d'un point de vue statistique. Mais souvent, lorsqu'on arrive dans une équipe qui aspire à aller à la Coupe Memorial avec un gardien comme Félix Potvin, ben souvent, le gars, malgré les statistiques que vous avez citées là, dans votre introduction, ben le gars, il va jouer avec un bagarreur et puis une autre recrue sur le quatrième trio, et ça, c'est quand il joue. Donc, alors qu'à l'époque, je me rappelle, les Tigres de Victoriaville avaient vraiment pas une bonne équipe. C'est d'ailleurs pourquoi il avait repêché Alexandre Daigle l'année suivante. Ben, il y avait des joueurs qui, à l'époque du Midget 3A, je me considérais supérieur d'un point de vue offensif, et ils jouaient déjà sur le power play à leur année recrue. Donc, c'est un concours de circonstances des fois. Moi, j'ai aucun regret par rapport à ça. Mais il faut arriver à la bonne place au bon moment. Mais s'il y a une chose que je ne changerais pas, c'est la ville dans laquelle je suis allé jouer. Puis ça, je ne dis pas ça parce que les auditeurs sont saguenéens. Là. C'est une communauté, c'est des fans qui sont spéciaux. Ils sont spéciaux, là. Ils sont vraiment différents de ce qui se faisait ailleurs dans la ligue. Là. C'est vraiment important, puis on le ressent quand on joue pour les saguenéens.
Donc, puisque tu parles de ton temps d'utilisation, entre autres lors de ta saison recrue et l'importance que tu donnais aux études, est-ce que c'est ce qui explique que tu as mis fin à ta carrière après deux saisons?
Ben, comment je dirais ça? Je vais dire quelque chose parce que moi, je suis pas là pour lancer des pierres à qui que ce soit. Ce qui arrive, c'est que moi, j'étais le joueur étudiant dans l'équipe. Donc, j'étais le seul qui était... Je faisais seulement les cours obligatoires avec mes coéquipiers en sport-études. Donc, les cours de français, de philosophie au cégep, je les faisais avec eux. Mais j'étais en sciences pures avec maths. Donc, j'avais tous mes cours de maths, de physique, de chimie. Et il arrive un point après deux ans, lorsque tu arrives, parce que j'ai quand même fait le camp d'entraînement de la troisième saison, mon année 19 ans. Et puis, je suis arrivé à un point où ce que... il n'y avait plus moyen de placer les cours qui me restaient à faire dans mon horaire. Et j'ai dû parler à Joe Canali, qui était mon entraîneur à ce point-là, à ce moment-là. Puis je lui ai demandé, Joe, je suis rendu à 19 ans, je sais que je ne me ferai pas repêcher, je le savais, même si j'avais eu une super bonne saison, je me disais, bon, je suis réaliste, là, je vais finir mon stage junior, je ne serai pas un joueur de 20 ans là, la saison prochaine, j'étais assez... réaliste pour voir que ça serait Danny, que ça serait Michel, je ne me rappelais plus c'était qui, Steve à la défense, ça serait les 3-20 ans déjà, on le savait. Donc moi je me disais, je vais finir mon junior, puis si je vais aller à l'université par après. Quand j'ai dit qu'il fallait que je manque une pratique par semaine au courant de l'année, j'ai reçu un non catégorique, donc j'ai compris ce que ça voulait dire. Puis il n'était pas question là, de faire l'impasse là, sur un cours au cégep qui m'aurait fait terminer un trimestre plus tard, une session plus tard, là, mon diplôme d'études collégiales.
Mais même si Joe, juste avant Yves, même si Joe te disait non, est-ce qu'il était compréhensif sur ta décision malgré tout?
Oui, absolument, oui. Parce que Joe... ça, c'est des affaires un petit peu plus personnelles, mais j'avais quand même une bonne relation avec Joe. Puis lui, il me disait souvent, « Carl, je veux pas que ça sonne trop, ça sonnera peut-être pas très humble, mais c'est ce que lui disait. Il disait, « Toi, là, tu devrais aller juste à l'école. Il disait, t'es trop intelligent pour jouer au hockey. » Là, regarde, ça, c'est pas vrai, mais ça, c'est ce que lui disait. Fait que je me suis toujours senti un petit peu à part, comme si je faisais pas partie de l'équipe. C'est pour ça que quand vous me parlez de mon expérience, les joueurs avec qui j'ai eu deux super belles années, j'ai des gens que j'ai adorés, que j'ai revus d'ailleurs il y a deux ans, là, à nos retrouvailles de 30 ans là, au Saint-Georges. C'était vraiment bien. Là. Puis il y avait eu l'intronisation de Steve Gosselin aussi. Son chandail avait été retiré. Ça m'a vraiment ramené des beaux souvenirs. Mais comme je disais, c'est de faire partie d'une équipe, c'est super important. Mais quand tu es toujours on the edge, comme on dit, que tu ne sais pas à chaque... à chaque match, si tu vas jouer le prochain match, c'était toujours une source de stress, de se préparer mentalement pour un match et de ne pas savoir avant de se pointer dans le vestiaire si son chandail allait être accroché. Mm. J'avoue que c'est des choses que j'ai rêvées quelquefois au fil des années suivant ma carrière. C'est des petites choses comme ça qui te marque. Moi, je ne suis pas habitué. On arrive dans le junior majeur. On était les meilleurs de toutes nos équipes respectives. Donc, quand on arrive puis que là, on va dans les estrades, c'est pas super le fun, mais on comprend l'année recrue. Mais la deuxième année, ça avait très bien commencé. Puis à la suite, par la suite, ben, il y a eu des échanges qui ont été faits, qui ont fait en sorte que je me suis retrouvé sur un trio plus bas. Mais c'est ça. Moi je n'ai aucun regret. Je suis toujours conscient que c'est la meilleure décision que j'ai prise d'arrêter le hockey. J'ai continué là, j'ai joué une année dans le tiers 2 là, junior A à l'époque. Il y avait une équipe dans la région de Québec. J'avais eu une très bonne saison. Le premier mois, ça a été plus difficile. Je pensais de brûler la ligue. C'était pas le cas du tout. Et puis, il est arrivé un match où on a joué un samedi à La Plaine. Et puis, Joe était dans les estrades. Et là, même si j'avais une bonne relation avec lui, je m'étais donné comme mission de lui montrer que il aurait dû me faire de la place malgré un cours au cégep, malgré une pratique en moins. Et je vais toujours me rappeler de ce match-là. J'avais fait 4 buts, 4 passes. Et
wow! Puis,
C'est, ben, même dans des ligues de garage, j'ai jamais eu autant de points dans un match.
Okay.
Mais il y avait une source de motivation. Mais je me rappelle qu'il était parti après le troisième but.
Quel était ton surnom, Carl, avec les Sags? Puis qui étaient tes meilleurs amis?
Ben, mon surnom, c'était Space. Parce que il y a Wiseman, Spaceman. On m'appelait Space ou Spaceman parce que les gens trouvaient que j'étais un petit peu lunatique, apparemment. C'est vrai, là, dans un sens, j'étais assez low profile, introverti. Je dirais que mon côté un petit peu plus extroverti, festif, est ressorti après 2 années passées à Chicoutimi. Ça, c'est, c'est clair. Là, mais à l'époque, là, je me rappelle, c'est Space qui était mentionné quand on voulait me parler.
Puis tes meilleurs amis étaient qui?
Ben, c'était, par exemple, Danny Beaurain. La première année, là, on était plus entre recrues, je dirais, parce que c'est assez intimidant quand t'arrives, puis tu sais, tu te mets pas de chum avec Sébastien Lavalière la première journée du camp d'entraînement. Donc, non, je dirais que c'était plus les Danny Beauregard, un Sylvain Rodrigue, par exemple, Danny Girard. C'était vraiment ces gens-là. La deuxième année, il y a eu Christian Caron, qui était mon roommate dans la pension où j'étais. Fait que tout le temps, eu là, des affinités avec pas mal tout le monde. Mais c'est drôle parce que depuis les retrouvailles, j'ai retrouvé du monde sur Facebook. Puis là, c'est les vétérans du temps qui m'écrivent. Par exemple, un Patrice Martineau, un Martin Lacombe, par exemple. Fait que j'ai pas eu beaucoup de contacts jusqu'au retrouvailles. Puis là, c'est le fun parce que c'était ma fête la semaine passée. Puis là, je voyais plein de noms d'anciens collègues qui me souhaitaient bonne fête. Fait que ça faisait chaud au cœur.
Peu importe les éditions des Saguenayens ou d'autres équipes dans la Ligue junior majeure du Québec, quand tu arrives dans la Ligue à 16 ans ou à 17 ans, c'est sûr, c'est intimidant. Selon toi, parce que tu as joué 2-3 ans, là, qu'est-ce qu'il faut faire pour être accepté des vétérans?
Ben, il faut que tu montres que tu veux faire partie de la solution. Il faut que tu aies un rôle. Si tu vas là puis faire le passager, ça ne fonctionnera pas. Il faut que tu tires dans le même sens. Mais il faut que tu ailles en bon québécois, la couenne dure. Quand tu arrives là, il faut qu'ils sentent que t'es pas intimidé. Alors que on se cachera pas que leur but, dès le départ, c'est d'un peu intimider les recrues. Ils veulent voir de quoi t'es fait, de quel bois tu te chauffes. C'est peut-être la plus grande fierté que j'ai, finalement, de mon passage à Chicoutimi. C'est que moi, j'étais assez introverti, voire même gêné. J'arrive là, oui, je mesure 6 pieds, mais je pèse 168 livres. Et puis, premier scrimmage, tu joues contre justement Sébastien Lavallière. Moi, je n'avais pas vu trop de matchs juniors avant. Mais j'étais capable quand même de dire que c'était peut-être pas le gars qui était là pour marquer 50 buts. Là. Donc, c'était... fait que c'est... Puis je savais pas me battre. Moi, si je m'étais battu, je me serais fait vraiment donner une volée. Ça aurait pas été... Je me suis battu une fois, en fait. Et c'était dans une bataille générale. J'avais comme pas le choix.
Et Carl, depuis la fin de ta carrière junior, est-ce que tu as revu des matchs de la LHGMQ? Puis qu'est-ce que tu as remarqué, si oui, de différent par rapport au moment où toi, tu as joué en 90-91?
Ben, je dirais que j'en ai vu plus à la télévision, surtout à Coupe Memorial. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est vrai, là, il y a une corrélation avec le calibre de la Ligue nationale dans le sens où c'est beaucoup plus rapide qu'avant parce que les gars, c'est des machines là, d'entraînement. Je veux dire, je crois comprendre que maintenant, ils prennent 3 ou 4 semaines de repos pendant l'été, puis c'est tout. Ils arrivent au camp d'entraînement, ils sont top shape, c'est des machines. Ils sont plus forts aussi, mais on regarde le jeu et il y a beaucoup moins... Oui, ça patine plus, mais il y a beaucoup moins de rudesse, il y a beaucoup moins d'accrochage, mais c'est le même constat qu'on peut faire de la Ligue nationale. Mais le seul point que je dirais, c'est pas parce que les gars sont plus rapides et plus forts et ainsi de suite que le sens du hockey a été amélioré. Moi, je le vois, là, je vais prendre un exemple qui est pas dans le genre majeur, parce que je veux pas me faire d'ennemis, mais un Josh Anderson, par exemple, avec les Canadiens, c'est le prototype même du gars rapide, fort, gros, power forward, mais aucun hockey IQ. C'est ça, je l'ai remarqué beaucoup dans les matchs juniors, qu'il y en a qui, oui, ont l'air impressionnants avec leurs mains, leur rapidité, leur robustesse.
Ils ont juste l'air.
Le sens du hockey n'est pas
ouais,
là.
Ouais, ouais.
Ça ne change pas, ça, que d'époque en époque. Puis mon père me dirait sûrement que dans le temps de Ludger Tremblay, puis on va dire Jean Béliveau pour les plus jeunes, qu'il y avait plus le sens du jeu dans ce temps-là. On dit toujours ça de la gang avant nous, là, mais blague à part, je pense que ça reste. Mais ce qui s'améliore, ben, c'est tout l'aspect technologique, puis l'entraînement, puis la nutrition. Je peux pas dire qu'on mangeait très santé là, dans l'autobus après les matchs. quand on allait à Shawinigan, un peu partout, on mangeait du McDo le mardi soir là, avant de retourner dans l'autobus puis faire le parc. Puis si on était chanceux qu'on avait joué un bon match, ben, on avait le droit à du poulet béni ou Saint-Hubert. Fait que c'était pas ce qu'il y avait de plus santé. Je sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, là, mais.
Non, non, beaucoup plus raffiné maintenant aujourd'hui, Carl. Maintenant, parle-nous un petit peu de ta situation familiale, épouse, conjointe, enfant. Comme Michel en parlait la semaine dernière, c'est toujours extraordinaire d'apprendre qu'est-ce que vous faites après votre carrière de hockey. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais maintenant et où tu habites?
Ben moi, je me suis retrouvé à Montréal pour le travail en 1997. J'ai étudié en actuariat et en finance. Je demeure présentement en Montérégie, à Saint-Basile-le-Grand. J'ai 3 filles qui ont aujourd'hui 14, 10 et 7 ans. Moi qui voulais jouer au petit hockey à genoux dans le sous-sol avec des petits gars, ben, je joue avec des Barbies au lieu de ça. Mais, je veux dire, elles sont vraiment ce que j'ai de plus précieux dans ma vie. Je donne un exemple. Quand je vais en voyage d'affaires ou quand je fais un voyage quelconque, ils ne sont pas avec moi, je vais toujours leur ramener un souvenir. Et puis, quand je suis allé au Retrouvailles, à Chicoutimi, je leur ai ramené des T-shirts roses des Saguenayens. Et puis, c'est tellement cool de les voir. J'ai toujours un pincement au cœur quand je vois ma plus jeune avec son T-shirt rose des Saguenayens. Puis elle est fière de porter ça. Elle ne sait pas trop c'est quoi, mais je leur ai fait visiter le centre Georges Vézina il y a quelques années. Là. J'étais bien fier de ça. Là. J'étais content de leur montrer où ce que leur papa avait connu ses 2 années de gloire, si on peut dire.
Et qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Moi, je suis gestionnaire de portefeuille pour des familles fortunées. J'ai d'ailleurs, comme client, quelques joueurs retraités de la Ligue nationale de hockey contre qui j'ai joué dans le junior. Fait que c'est assez intéressant. La particularité de ce qu'on fait, nous, c'est qu'on on fait pas juste le côté investissement. On s'occupe de tout, que ça va autant là, de l'aspect successoral, de penser au testament, aux assurances, toutes ces choses-là. C'est tout ce qui est relié au patrimoine, finalement, des familles fortunées.
Tu amènes un point intéressant, Carl, parce que tu sais, les joueurs qui ont eu une carrière, qui ont gagné des gros sous, à un moment donné, la carrière s'arrête. Ils ont ces gros sous-là. Il y en a qui pourraient partir sur une dérape. Mais tu as des personnes comme toi qui disent, ben garde, tu pourrais. Tu sais, ça prend des gens comme toi pour bien dire, ben tu pourrais peut-être continuer d'investir, tu pourrais. Ça dépend ce qu'ils veulent faire également.
Oui, puis c'est pas intuitif. Puis j'ai pas connu une fin de carrière à l'âge de 32, 33 ans, mais je peux comprendre l'adrénaline d'un joueur d'embarquer sur la glace, puis comment désemparé il peut être à la fin de sa carrière. Parce que c'est pas comme vous puis moi, on va être retraités quoi, à 60, 65 ans, mais eux, ils sont retraités quand même assez jeunes. Puis ça peut être assez déstabilisant là, d'en arriver là, puis de pas savoir trop quoi faire. Puis même s'ils trouvent d'autres choses à faire, moi, je veux dire, je sais qu'ils ne retrouveront jamais la dose d'adrénaline. Puis j'ai vu beaucoup de joueurs aussi avec qui j'ai joué dans le junior qui ont toutes misé sur le hockey. Ouais. Certains qui étaient répertoriés dans des listes de la centrale, là, de la Ligue nationale pour le repêchage, puis qui finalement n'ont pas été repêchés. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si j'avais eu une vie, 10 vies, je n'aurais peut-être gaspillé une pour m'essayer. Mais j'avais des coéquipiers qui étaient moins. Ben là, c'est pas généralisé, là, quelques-uns qui étaient vraiment pas intéressés par le côté plus académique, c'était uniquement le hockey et tout passait par là. Fait qu'ils ont continué autant qu'ils pouvaient pour faire ce qu'ils aimaient dans la vie. Puis ça, moi, je trouve ça admirable que tu fasses n'importe quoi dans la vie tant que t'aimes ce que tu fais, c'est ça qui compte. Je vois trop de monde dans la vie qui font un travail qu'ils aiment pas. Au moins, eux, je trouvais que y en a qui ont su aller dans le semi-pro, il y en a d'autres qui sont allés en Europe, qui ont fait des carrières, qui sont rendus jusqu'à 40 ans, qui deviennent entraîneurs. Fait que ça, je veux dire, c'est ça ta passion, mais tu continues là-dedans. Moi, j'avais d'autres options. Donc, c'est comme ça que je le vois. Mais il faut prendre conscience, il faut leur faire prendre conscience. Là, je parle de ceux que j'avais comme clients. Puis c'est vrai aussi pour d'autres de mes clients qui n'ont pas été joueurs de hockey. Il faut que tu leur mettes les choses en perspective pour qu'ils aient un rythme de vie qui est plus en ligne avec leurs avoirs. Parce que tout est relatif hein, dans la vie. Là, il y avait une anecdote qui n'a même pas rapport avec le hockey. C'était au baseball. Il y avait un joueur des Yankees de New York. Danny Tartable.
Oui, Danny Tartable, ben oui, je me rappelle. Ouais. Oui.
Mais lui, là, il avait signé un contrat à l'époque de 100 millions. Ça fait longtemps, là. Mais quand même, 100 millions sur 12 ans, probablement. Puis, il s'était acheté une maison de 75 millions.
Bon, il a besoin de ça, ça
n'a pas d'allure.
Non, ben non.
Mais comme quoi, tout est relatif.
Mais une maison, 75 millions, j'aimerais ça visiter ça. 75 ouais. millions! Il doit y avoir des appartements dans ça, puis c'est...
Ouais, il y avait un train, je me rappelle, j'avais vu un reportage, il y avait un train qui faisait le tour de la maison. Il y avait un lac avec des poissons exotiques qu'il avait pris, je sais pas où. Mais tu sais, c'était comme trop, là.
Ben oui,
puis le gars, évidemment...
Probablement mal conseillé également.
Ouais. Ouais. Hey, Carl, ça a été vraiment agréable de te parler. Merci beaucoup. Yves Volduc qui sera notre invité. La semaine prochaine, non, on en est encore.
Congé lundi, on se donne rendez-vous dans deux semaines.
Est-ce qu'on dit la fête de la reine ou encore ou la fête du roi?
C'est la fête des patriotes.
Des patriotes, exactement, Carl.
Bon, merci, Carl.
Merci beaucoup, alors, les gars.
Dans deux semaines, ce sera Tommy Tremblay qui sera notre invité à nos micros.
Merci, Yves Volduc.
Merci, Yves.
Merci bonne semaine.
Je veux terminer là-dessus, Dominique. Une maison de 75 millions, juste payer le chauffage. Deux, la meubler. Faut ta meuble, là.
Ben oui.
Mais pas qu'un poêle de frigidaire, là. Avez-vous pensé meubler une maison de 75 millions?
75 millions, les taxes.
Payer les taxes, c'est ça, j'allais dire. Payer les taxes, payer le chauffage, payer les assurances. Mais y a-tu du monde?
Ça prend des gens comme Carl, lui conseiller et tout. Ouais. Tu fais 100 millions. C'est parce qu'à un moment donné, 100 millions, il n'en rentrera plus après 100 millions si tu ne fais plus de contrat. Donc, c'est de bien gérer ton argent. Puis, hey, 100 millions, tu en dépenses 75. Il y a beau en rester 25, mais ça vient de te coûter 75 millions mais pour une maison.
Mais payer les taxes, puis il n'est pas meublé, là.
Oui, c'est ça, là.
Oh boy, c'est pas le même monde, hein.
C'est pas le même monde.
Alors, ce soir, il y a du hockey de la Ligue nationale, il y a du basketball, les Blue Jays contre Baltimore, mais la Ligue junior, ce soir. Bécomo se doit de gagner. Sinon, ça ne sera pas là en finale.
Et non, ça serait vraiment une surprise. Là.
Ouais, vraiment, à 4 ou à 5. Hey, bon retour, les boys.
Ben oui.
Et à demain.
On ferme le vestiaire. De retour demain, 15h30.
L'émission Dans le vestiaire, une présentation de votre plus gros concessionnaire Chrysler Dodge Jeep au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant agrandi et rénové. 3311 Boulevard du Royaume, Jonquière.
Chez l'Étoile Dodge de Jonquière, en mai, viens te gâter. Tu choisis jusqu'à 20% de rabais sur les Ram Classic 2023. Nos Grand Cherokee PHEV ont 8 000 $ de rabais et nos Jeep Gladiator 2023 ont 10%. Wow! Ou tu prends 0% jusqu'à 72 mois. Aussi, nos moteurs diesel Cummins sont sans frais sur les Ram HD 2024. Et nos Fiat électriques arrivent bientôt. En mai, viens te gâter chez... Tout ça avec les changements d'huile gratuits pour 2 ans.
Pour